7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, parce que c'est vrai, il faut bien être deux pour faire un enfant, mais aujourd'hui, nous nous intéressons surtout, plutôt, au père, de l'annonce de la grossesse à la découverte de l'enfant. Les papas d'aujourd'hui sont-ils différents, plus investis, plus tendres, plus inquiets, plus émerveillés, plus attentifs ou tout simplement plus présents? Père, est-ce un métier qui s'apprend? C'est à vous de nous répondre, les voisins. Appelez-nous dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission surtout, et racontez-nous vos découvertes récentes avec vos jeunes enfants. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone du standard que vous pouvez composer dès maintenant. Vous nous laissez tout de suite un numéro et nous vous rappelons immédiatement. Il y a dans le studio deux papas qui sont prêts à s'épancher sur le sujet et qui ont tenu tous les deux une sorte de journal de bord, on peut dire ça comme ça. Julien Blangras, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, journaliste et l'œuvre de votre vie, je veux dire en dehors de votre enfant bien sûr, et des autres ouvrages, ça s'appelle In Utero, Diable Vauvert, In Utero justement, qui raconte la gestation de votre chef-d'œuvre qui a maintenant votre petit garçon.
Un peu plus d'un an et demi, une vingtaine de mois.
C'est ça, voilà. C'est quand on sait compter les mois, c'est qu'on est bien au fait. Hein.
Oui, bien obligé.
Benjamin Buot, bonjour.
Bonjour.
Quant à vous, vous êtes l'auteur du journal Moi Papa, père au foyer en Normandie pour élever vos deux filles. En tout cas, père au foyer à temps complet pendant plusieurs années.
Pendant 7 ans, oui. Et puis maintenant, à mi-temps, puisque j'ai repris une activité, mais à domicile. Donc je suis encore...
corvéable pour
voilà,
vos filles.
Exactement. Hein,
c'est comme ça qu'elle l'interprète, je ne sais pas.
C'est exactement comme ça qu'elle l'interprète.
Vos deux filles qui ont 6 et...
Qui ont 8 et 10 ans.
8 et 10 ans. Et vous avez eu envie donc de tout déballer, tous les deux. Et bien sûr, en fin d'émission, alors on aura un autre sujet, quoique pas si éloigné, reportage au Cap-Vert, cette fois-ci sur les mères célibataires. Il y en a qui n'assument pas, en effet, et c'est partout dans le monde. Voilà. En tout cas, pour les pères, 33 1 84 22 71 71, les discussions commencent dès maintenant. Je vous lis quelques messages qui sont postés sur les réseaux sociaux. Rodrigue, qui est à Ouagadougou, au Burkina, il nous dit « J'ai 26 ans, je n'ai pas d'enfant. La perspective d'en avoir un me fait plutôt peur, car le monde est dur, l'avenir me paraît plus sombre pour les futures générations. Suis-je le seul à éprouver ce sentiment? Y a-t-il un bon âge pour faire des enfants ?» Julien Blanc.
Sur l'âge, je ne sais pas, mais en tout cas, les angoisses de ce monsieur sont, je pense, assez largement partagées par les futurs pères. Moi, c'est une partie de mon bouquin, c'est quand même réfléchir sur la pertinence de se reproduire dans ce monde-là, qui effectivement n'est pas toujours très sympathique. Donc finalement, les gens continuent à faire des enfants, donc je pense que l'instinct de vie, malgré toute l'horreur du monde, est
mais fort, la question de l'âge, vous l'êtes posée, tous les deux, Julien Buot, vous aviez quel âge pour votre premier enfant?
30 ans.
Ouais.
Elle est arrivée quand j'avais 30 ans, pile poil. Et non, je m'étais pas vraiment posé la question de l'âge. Les choses se sont faites naturellement. Mais avec le recul, j'estime que c'était un âge plutôt bien. Et voilà, j'avais vécu suffisamment de choses avant pour passer le cap et passer
voilà,
aux enfants.
Voir arriver l'enfant avec une certaine sérénité.
Ouais, moi je suis un père plus tardif hein, parce que j'ai eu mon fils à 37 ans, mais j'avais l'impression d'être encore un adolescent. Mais en fait, non, il faut pas se mentir. On vieillit.
Saps à Dakar nous dit « Moi, je suis pas encore papa, mais je suis sûre que je serai un bon père. Je souhaite compter sur une grande communication pour développer de bonnes relations avec mes enfants. » Fousni, qui est à Bobo-Dioulasso, Burkina, « Les papas de nos jours, nous dit Fousni, n'ont jamais le temps pour leurs enfants. Ils sont tout le temps en mission, ils rentrent tard à la maison, ils ne communiquent plus avec leurs enfants. » Ce sont des sentiments que vous éprouvez parfois. Alors, pas pour vous, Benjamin, puisque vous êtes père au foyer.
Ouais, nous, c'est clairement le choix de vie qu'on avait fait avec mon épouse quand on a décidé que je sois père au foyer. C'était pour justement ne pas vivre ça et qu'on puisse en profiter.
C'est toute la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Moi, il se trouve que j'ai la chance d'être travailleur indépendant parce que je suis journaliste et écrivain, donc je choisis mes horaires, je n'ai pas de patron, ce qui n'a pas de prix, et donc ce qui me permet de passer aussi beaucoup de temps avec mon fils.
Mais c'était une question qui vous taraudait lorsque vous avez su que vous alliez devenir père. Est-ce que je vais pouvoir passer assez de temps avec mon fils?
Oui, d'autant que moi, mon activité est un peu particulière parce qu'elle consiste à écrire sur mes voyages, donc je suis assez souvent souvent à l'étranger. J'avais peur de ne plus pouvoir partir. Bon, voilà, il faut trouver des équilibres. Là, je continue à voyager, mais je passe beaucoup de temps avec mon fils quand je suis à la maison.
Gustave à Abidjan nous écrit ceci. Aujourd'hui, moi, quand je vois certaines familles, je remarque que les enfants n'ont pas de modèle masculin, modèle normalement donné par le père. La question du modèle masculin, c'est une vraie question pour vous ou pas? D'autant plus pour vous qui êtes papa d'un garçon.
On essaye de donner des modèles. Je sais pas, ça vient assez naturellement en fait. Il suffit d'être un bon parent. Je réfléchis pas spécialement à être un bon père, et c'est être un bon parent avant tout. Je sais pas.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le secret, c'est d'envisager les choses du point de vue du parent.
Parce que vous, quel modèle masculin vous donnez, puisque vous êtes père au foyer? Est-ce que vous vous êtes interrogé sur la pertinence du modèle que vous êtes capable de donner?
Oui, j'ai même interrogé mes filles quand elles ont eu l'âge de me répondre et d'y penser elles-mêmes à ça. Et pour elles, de toute façon, c'est normal d'avoir le papa disponible comme je l'ai été. Elles ont quand même conscience que c'est pas le cas partout et que c'est pas le cas même chez leurs camarades de classe.
Oui.
Mais j'assume aussi bien l'autorité que l'image du père qu'on peut avoir traditionnellement. Ma femme aussi assume l'autorité. Alors oui, j'assume des tâches ménagères, mais ma femme aussi. Enfin, on est vraiment sur une vision parentale et pas du tout père-mère.
Razil a 25 ans, il est à Lomé. Et lui, il nous dit qu'il va être papa suite à une erreur. Mais je ne regrette rien, nous dit Razil. J'ai peur, je ne dois pas le cacher. On me dit souvent que ça va être très difficile. Alors j'ai besoin des conseils de vos experts.
C'est bon d'avoir peur, c'est bien.
Ah bon, c'est bon d'avoir peur.
Oui, c'est bon signe, ça veut dire qu'on est un peu conscient des difficultés qui peuvent éventuellement venir, parce qu'évidemment c'est une responsabilité.
C'est comme le trac en fait, il faut l'avoir pour savoir.
Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois qu'on est confronté à la question, enfin à l'enfant, une fois qu'il est là, on assume quoi qu'il arrive, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de le faire.
Oui, puis ça devient les questions, on se les pose plus, ça devient une évidence quoi. C'est faut assurer au quotidien.
Voilà, le quotidien reprend ses droits donc.
Alors, je sais que sur votre, vous tenez également un blog, hein, Benjamin Buau, oui. Et vous dialoguez beaucoup avec des femmes, alors que c'est un blog tenu par un père sur la paternité, sur le fait de s'occuper de ses enfants. Ce sont surtout des femmes qui vous interrogent.
Oui, parce que ça intrigue les femmes, en fait, le fait que ça intrigue encore les femmes, le fait qu'il y ait des hommes qui s'intéressent à leur progéniture et donc voilà, au tout début du blog, il y a 8 ans maintenant, j'avais 95% de lecteurs qui étaient des lectrices. Les choses ont évolué progressivement, j'ai vu les choses évoluer et des pères s'intéresser aussi et prendre la parole, des pères au foyer témoigner sur le blog. Les choses évoluent en même temps que la société évolue et je le remarque sur les réseaux sociaux.
Alors je sais pas si ça intrigue les femmes, là je vous parle en tant que femme, mais en tout cas ça intrigue les femmes d'entendre des pères en parler, parce qu'on se doute bien que les pères sont intéressés par la question au même titre que les femmes. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas très nombreux à en parler comme ça ouvertement, à tout déballer.
C'est vrai que mon bouquin qui porte donc sur la grossesse, hein, plus que, donc c'est sur la future paternité plus que sur la paternité. Et je me suis renseigné pour savoir s'il y avait d'autres écrivains qui s'étaient penchés sur la question. Et pas tant que ça. C'est surtout des écrivaines qui ont tenu le journal de leur grossesse, mais du point de vue des pères, il n'y en a pas beaucoup.
Et puis même ensuite, des pères qui parlent du quotidien, les couches culottes, etc. On aura davantage de pères qui vont s'exprimer au moment de l'adolescence, au moment où il y a un vrai dialogue avec des enfants plus proches de l'âge adulte.
Parce que malgré tout, je pense qu'on imagine que s'intéresser au quotidien du petit enfant, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour un homme, alors que moi d'expérience, ça l'a été. Enfin, ça l'a été naturel.
Bon, tout ça pour dire que les voisines, bien sûr, le standard n'est pas fermé pour vous. Si vous avez envie de participer, vous avez le droit. Surtout si vous observez peut-être quelques changements dans le comportement de l'homme à la maison depuis la naissance de l'enfant. 33 1 84 22 71 71. En tout cas, vous avez fait de la naissance de votre enfant, Julien Blangras, un vrai sujet vu par un père. Et c'est vrai, on le disait, les hommes ne s'épanchent pas vraiment. Vous citez l'écrivain Virginie Despentes dans Apocalypse bébé qui dit « À moins qu'il y ait un drame, les enfants ne font pas de très bons sujets de livres pour les hommes. »
Elle fait ce constat-là, celui dont on parlait tout à l'heure. Les hommes ne s'intéressent pas tant que ça au sujet des
enfants. En tout cas, ils ne savent pas en parler, quoi.
Ouais, ils en parlent peu. Et dans le cas de la grossesse, c'est vrai que la femme, elle est enceinte dans son corps et l'homme, il est enceint dans sa tête. Parce qu'il y a aussi un processus de transformation qui se joue chez le futur père, sauf qu'il est beaucoup moins visible. Donc c'est ce que j'ai essayé de retranscrire.
Alors qu'est-ce qui est moins visible? Qu'est-ce qui s'est transformé? Qu'est-ce que vous sentiez se transformer à l'intérieur de vous, du coup?
Eh ben, on était un jeune homme et on devient un adulte, un père, parce que forcément, on ne sera plus la personne la plus importante de sa propre vie, donc ça change forcément le rapport à l'existence.
La responsabilité, enfin, tout d'un coup, on prend conscience du vrai sens du mot responsabilité, quoi.
Oui, et puis le centre de notre vie se déplace, parce que voilà. On sait qu'après le centre, ce sera l'enfant.
En même temps, vous écrivez ces bouquins-là, c'est quand même assez égocentrique comme démarche. Moi, père, moi inquiet, moi
arrivé beaucoup de choses. Partager notre expérience avec des tas de jeunes papas qui s'expriment pas forcément sur la question. Et je crois que ces bouquins, ils ont une vertu, voilà, le fait de partager nos expériences. Il y a des gens qui se retrouvent là-dedans et qui ont pas forcément la parole. Mmh. Donc je crois que ça leur fait un peu de bien. J'ai des témoignages dans ce sens, en tout cas.
Oui, ça débloque la parole. Mmh. Mais...
Vous avez souffert de toute l'attention portée sur la femme enceinte qui, quelles que soient les sociétés, quand même, est au centre de l'attention, hein, quand ça se voit physiquement.
Moi, dès le début, j'ai fait le choix de pas du tout en souffrir, c'est-à-dire que je me suis inscrit sur les forums de maternité comme mon épouse en même temps qu'elle, et je suis devenu une muguette 2005 sur les forums de Doctissimo, c'est comme ça qu'on appelle les femmes qui accoucheront au mois de mai.
Vous renseigner sur l'accouchement,
Je voulais pouvoir dialoguer déjà, je pense, et puis je voulais aussi me rassurer sur ce qui nous attendait, parce que c'était vraiment l'inconnu, autant pour elle que pour moi, et ça m'intéressait autant qu'elle. Mmh. Donc,
Ah non, moi ça me gênait pas du tout que l'attention se porte sur elle, c'est normal, hein, c'est quand même un processus miraculeux qui se passe pendant 9 mois, donc c'est absolument normal que les gens se penchent dessus. Ouais.
Mmh. Julien Blangravo, vous avez beaucoup voyagé, hein, donc puisque ça fait partie de votre métier, vous avez aussi découvert dans des sociétés européennes la pression sociale exercée sur les futurs parents, surtout sur les futures mères, c'est-à-dire sur finalement l'obsession de la sécurité, hein, pour l'enfant à paraître.
L'obsession de la sécurité.
Avec le marketing qui va avec tout ce qu'il faut acquérir, le matériel de puériculture,
je crois que la sécurité est la première préoccupation des parents quand ils deviennent parents. Je pense que c'est dans notre programme biologique de protéger notre progéniture. Et ça, je pense que ça va au-delà des cultures.
Hein, oui, bien sûr, mais sauf que quand on est dans des sociétés de consommation, la société de consommation en joue, non, quand même, de cette inquiétude-là. Alors,
disons que oui, les publicités pour les poussées être sécurisées, les chaises hautes sont plus présentes dans les sociétés occidentales.
Et l'épanouissement du bébé, etc., non ?
Oui, disons qu'il y a un marché, bien sûr, il y a un business autour du bébé qu'il y a peut-être moins dans d'autres pays.
Oui, il y a un très gros business, oui. Moi, je le vois en plus du point de vue du blogueur, puisque les marques me contactent pour faire la promotion des innovations, de leurs produits, etc. Donc, il y a un vrai business. Il suffit de voir quand on rentre dans un magasin de puériculture, qu'on est jeune parent et qu'on est directement identifié comme jeune parent, on se fait sauter dessus par les vendeurs et puis on sent qu'il y a un vrai marché et qu'il faut dépenser beaucoup de sous.
Vous nous appelez, les voisins et voisines, au 33 1 84 22 71 71. Évidemment, on est ravis de dialoguer avec des pères et vous pouvez questionner nos deux papas qui sont dans le studio aujourd'hui de 7 milliards de voisins sur RFI.
J'ai pris un coup de vieux quand ce mot m'a dit monsieur. Des piges de plus à chaque coup, je l'ai lu dans ses yeux. Chacun de ses regards me pousse à 2 mètres sous terre. Et c'est vrai que je pourrais être son père. Je crois que ce prénom m'irait pas. Moi, tu le vois dans mes bras. Non, il aurait peut-être mes yeux, mon nez, ma bouche. À coup sur ma peau, car trop souvent plein les couches. Je suis pas prêt à prêter mes Legos, à mettre de côté mon ego. Pas prêt à lâcher le micro, éviter les gros mots. À poser le stylo, écraser le mégot. Partager mes Haribo et mes jeux vidéo. Non, je suis pas prêt sauf si en théorie. Je passe mon tour sur l'insomnie, l'acné et les concerts de Laurie. Qui sait ce qu'il pourrait devenir, toxico, criminel ou pire, fan de Tokyo Hotel. Je crois que ce prénom m'irait pas. Tu crois que ce prénom m'irait toi? Je crois que ce prénom m'irait. Je crois que ce prénom m'irait pas. Tu crois que ce prénom m'irait toi? Je crois que ce prénom m'irait. Ça fait bien. Parfois j'ai douté, été tenté d'y goûter. Croquer un petit bout, bonne joue et petit nez. Un modèle réduit, mais j'ai une peur panique. D'avoir un bambin doté de cordes vocales bioniques. Peur d'être convaincu que c'est un génie. Que dans 3 tâches pourries, je vois un futur d'Ali. Peur d'entendre ses premiers mots et voir ses premiers pas. Son premier rendez-vous Pôle emploi. Comment le regarder en face sans aucune perspective? Quelle fresque, il ne manquerait plus qu'un père presque ivre. Non, j'ai pas la fibre, pas les épaules, pas les bastos, c'est pas le calibre. Je crois que ce prénom m'irait pas. Ouais, je serais dans de vos draps. Nougaro chantait Cécile et Renaud Lola. J'ai choisi de la dédier à ceux que je n'aurais pas.
Les pères, un métier qui s'apprend, c'est la question que nous posons aujourd'hui chez 7 milliards de voisins, en compagnie de Julien Blangras, qui publie son journal d'inquiétude et d'émerveillement qui s'appelle In Utero, qui porte en grande partie sur la grossesse, mais pas seulement. Il y a ensuite peut-être aussi le baby blues. Il y a le baby blues pour les pères ou pas? Alors, vous l'avez vécu, ça?
Dans mon cas, il y avait une sorte de daddy blues, pendant la grossesse. C'est-à-dire que la grossesse, c'est une succession de sentiments un petit peu confus qui mélangent la joie, la panique, un petit peu d'inquiétude.
On est également en compagnie de Benjamin Buot qui publie le journal de Moi Papa. Et nous accueillons un auditeur qui nous appelle de l'Est de la République démocratique du Congo, de Bukavu. Bonjour Lucien. Lucien, êtes-vous en ligne avec...
Bonjour Emmanuel.
Lucien, vous avez 24 ans, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez un fils de 3 ans et vous êtes séparé de la maman. Comment vous vivez ça, justement, votre paternité?
Comme vous venez de le dire, j'ai un fils de 3 ans, mais je ne vis pas avec sa mère, on s'est séparés déjà.
Oui.
Malgré tout ça, j'arrive à créer un climat d'entente avec mon fils.
Oui.
Je l'invite chez moi dans les week-ends, il y passe 2 ou 1 jour. Et il arrive même à me parler de son évolution à l'école, car il a commencé la maternelle il y a 2 mois.
Oui.
Et il arrive même à me faire de grandes confidences. Avec ce climat d'attente que j'arrive à créer toujours.
Oui, poursuivez Lucien, j'ai l'impression que vous avez gardé la radio allumée à côté de vous, non? Vous vous entendez en écho. Poursuivez, nous vous écoutons, vous êtes à l'antenne.
Ah oui, c'est pourquoi je disais, mais contrairement avec d'autres papas d'aujourd'hui, j'ai arrivé à parcourir certains pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. Les papas d'aujourd'hui, ils sont plus professionnels qu'éducatifs.
Ah oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ils pensent aller au boulot. Présent.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, plus professionnel que éducatif?
Qu'éducatif. Oui, ils pensent aller au boulot pour chercher à vivre pour les enfants. Et pourtant, de l'autre côté, ils laissent tomber l'éducation qui est la chose la plus précieuse.
Ah oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Merci de nous avoir appelé, Lucien. Effectivement, pour les pères qui poursuivent des carrières extrêmement prenantes, vous avez l'occasion de dialoguer avec des papas qui sont dans cette situation. Vous avez des métiers qui vous permettent, pour vous, Benjamin Buot, vous êtes en partie père au foyer, mais est-ce qu'il y a cette interrogation-là du côté des pères, cette prise de conscience d'être trop pris par son métier?
Oui. Moi, j'ai eu des témoignages de pères qui regrettaient de ne pas pouvoir passer autant de temps qu'ils le souhaitaient avec leurs enfants, qui s'interrogeaient sur le fait ou non de franchir la barrière et de devenir à leur tour père au foyer, même si c'est très compliqué dans certains cas. Souvent la réponse que je fais, c'est pas la quantité de temps passé, mais la qualité du temps passé qui est importante. Donc on instaure la relation qu'on peut, et après être présent avec son enfant, si c'est être présent à côté de lui alors que chacun a sa tablette, ça n'a aucun intérêt. Il faut être présent
devant sa télévision en train de faire autre chose. Il y a beaucoup d'hommes qui disent ah oui mais moi j'aime finalement être seul avec son enfant. C'est vrai que c'est dur, notamment pour les pères séparés quand ils s'en occupent tout seul le week-end, mais mon enfant n'est pas le même quand il est tout seul avec moi. Finalement ça marche beaucoup mieux. Sous-entendu, les femmes fichent un peu le bazar. Julien Blangras, non, vous avez...
Je n'ai absolument pas d'avis sur la question.
On entend souvent des hommes qui disent ça. Je ne sais pas, Benjamin, quand vous vous occupez seul de vos filles.
Non, quand je m'occupe seul de mes filles, de toute façon, c'est sur le même parcours et sur les mêmes choix éducatifs que ceux de mon épouse, puisqu'on en parle. De toute façon, on n'en parle pas devant les filles, puisqu'évidemment, sinon ça gâche tout l'effet et ça n'a plus aucun intérêt. Mais non, ça met pas le bazar. Je pense qu'on est d'accord sur nos choix éducatifs.
Vous restez avec nous, en tout cas, tous les deux hommes parlent de leur nouveau métier père. Et chez vous, les voisins, appelez-nous, dites-nous ce que vous en pensez, comment vous vivez votre nouvelle paternité au 33 84 22 71 71. Les voisines, vous avez aussi le droit de participer, surtout si vous observez des changements chez le père à venir sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. L'émission est consacrée au père aujourd'hui. Père, devenir père, un métier qui s'apprend. Nous en discutons avec de jeunes papas. Julien Blangras, vous publiez In Utero et vous avez couché sur le papier, tenu un journal de bord de vos impressions, de vos sentiments mêlés pendant la grossesse de votre conjointe et également un petit peu après lorsque l'enfant paraît. Votre fils a aujourd'hui 1 an et demi. Benjamin Buot, vous avez tenu également un journal, le journal de Moi Papa, et vous êtes un père au foyer pendant 6 ans et aujourd'hui semi-père au foyer, en tout cas extrêmement présent pour vos deux filles. Et bien sûr les voisins, vous pouvez nous appeler au 33 1 44 22 84 22 71 71. Je vais le refaire, ça sera mieux. 33 1 84 22 71 71. On a d'autres messages postés sur les réseaux sociaux. Adilou qui est à Douala au Cameroun qui nous dit par rapport à la grande question, est-ce que les papas ont changé aujourd'hui? Les papas, selon Adilou, ne sont plus comme ceux d'hier pour la simple raison que ces derniers ne s'occupent plus, selon Adilou, de leurs jeunes enfants. Ces papas préfèrent mener leur vie dans l'alcool, les jeux de hasard, etc. Voilà, bon, c'est une condamnation sans appel. Ma, au contraire, a abêché au Tchad, nous dit, le papa d'aujourd'hui n'a aucune influence sur ses enfants et c'est à cause des femmes qui sont de plus en plus exigeantes et ont de plus en plus de pouvoir dans le couple. Ce sont des discussions d'ailleurs qu'on pourrait aussi entendre en Europe, ça, non ?
Oui, probablement, mais après, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, je ne sais pas s'il y a moins d'influence sur... je ne sais pas, Julien, si tu as constaté, mais...
Je pense que notre génération est assez différente de la génération précédente, tout simplement parce que la société a évolué et que maintenant les femmes travaillent dans la majorité des cas. Donc évidemment, ça rééquilibre les rapports au sein de la famille, au sein du couple. Et voilà, je ne sais pas si on est une génération de féministes, mais en tout cas, on essaye, je crois, dans le cas de Benjamin et le mien, voilà, d'équilibrer les...
Donc vous partagez avec votre conjointe la tendresse avec les enfants et l'autorité avec les...
Exactement.
C'est ça, vous êtes
oui,
moitié
voilà.
Tendresse, moitié autorité,
c'est ça,
ça, vous n'êtes
c'est
plus,
ça.
Mais plus seulement l'autorité.
Les rôles
c'est comme
sont,
ça que vous
les rôles
voulez
sont
vous
partagés.
Définir.
Oui, c'est ça.
Charles, 46 ans, à Abidjan, nous dit « C'est un réel plaisir d'être père, mais les hommes ne sont jamais à l'aise lorsque cela arrive. Je suis père de 2 enfants, la vie est chère, ce qui rend les choses difficile, je travaille très dur pour mettre mes enfants à l'abri de tout besoin. » Vous sentez aussi ce poids-là.
Mais ça, une fois de plus, je crois que ça concerne les hommes, mais aussi les femmes. Le fait d'avoir des angoisses vis-à-vis de la paternité ou de la maternité, le fait de devoir travailler pour devoir les nourrir, voilà.
Les angoisses d'avenir, c'est qu'est-ce qu'elles vont devenir? Est-ce qu'on va pouvoir assurer sur le long terme? Enfin, est-ce qu'on ne fait pas des erreurs éducatives quand ils sont en bas âge et qui se répercuteront sur leur vie future? Enfin.
Et après, cette question de, avec les, disons, les papas qui s'occupent de leurs jeunes enfants, il y a des penseurs qui trouvent que c'est un signe de la féminisation de la société, que c'est une dévirilisation de l'homme, qui trouvent que c'est scandaleux. Alors, évidemment, on n'est pas d'accord avec ça avec Benjamin. Et puis, surtout, c'est un peu absurde, parce que le fait de changer les couches de mon fils, ça fait pas de moi une maman, ça fait de moi un parent, tout simplement.
Je partage à 200% l'avis de Julien.
Bill, 24 ans, Brazzaville, lui, il nous dit « Je vois de nombreuses personnes qui blâment les parents d'aujourd'hui. Je pense cependant que... » Alors lui, bien plus optimiste. Les parents sont bien plus impliqués et investis qu'avant, notamment les papas, nous dit Bill, de nos jours, s'intéressent beaucoup à l'avenir de leurs enfants. Hein, vous en êtes les témoins, effectivement, et l'illustration. Ils sont placés, nous dit Bill, dans les meilleures écoles en fonction du revenu de la famille pour pouvoir faire le métier qu'ils souhaitent et dans les meilleures conditions. Vous êtes l'exemple vivant de ces papas, de ces nouveaux papas. Enfin, un moment qu'on parle des nouveaux pères. Hein, ceci dit, c'est plus très nouveau à force, mais aussi impliqué, aussi inquiet pour l'avenir des enfants que ne le sont les mères.
C'est moins nouveau, mais c'est malgré tout la proportion de papas qui, enfin, les proportions entre la maman et le papa qui s'occupe des enfants, l'écart reste quand même assez grand encore. Malgré tout, les choses ont évolué, mais ça reste encore. Ça reste encore rare de s'occuper de ses enfants.
Donc vous vous sentez perçu d'ailleurs aujourd'hui encore dans la société française quand vous dites « Non, moi j'ai fait le choix d'élever mes enfants et aujourd'hui de reprendre un travail mais uniquement à temps partiel et à domicile. »
Comme le disait Julien tout à l'heure, les gens de notre génération nous considèrent... Alors soit pour eux, c'est quelque chose de tout à fait normal, soit comme des super-héros. Moi, au début, c'est vrai que parfois, les mères qui voyaient mon témoignage sur le web, j'étais un peu le super-papa. Waouh, qu'est-ce que j'aimerais que ce soit la même chose.
Pourquoi j'ai pas trouvé un homme comme ça?
Ouais, c'est ça. Oh là là, ton épouse a de la chance, etc. Et je disais, mon épouse a pas de chance. C'est quelque chose de naturel et de normal. Rien ne prédispose plus une femme qu'un homme à gérer le quotidien dans son foyer ou par rapport aux enfants. Et ça fonctionne comme ça chez nous.
Nous accueillons un auditeur, un voisin qui nous appelle de Francfort en Allemagne au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Charles.
Bonjour, bonjour 7 milliards de voisins, bonjour tout le monde.
Soyez le bienvenu, vous avez 42 ans, vous êtes père de deux filles, c'est bien cela ?
Oui, père de deux filles, oui, c'est ça.
Quel âge ont vos filles ?
Elles ont 2 ans maintenant.
Donc des jumelles ?
Oui, c'est ça.
Bon, et vous avez eu envie de nous appeler pour nous faire partager vos inquiétudes ou vos joies de papa ?
Oui, au fait, je voulais poser des questions pour savoir, parce que normalement, quand on est père, on est un peu près de ses enfants, on doit les voir. Moi, je ne les ai jamais vus.
Ah, vous n'avez jamais vu vos filles?
Ouais. Elles sont au Sénégal. Moi, je suis ici en Europe.
Ouais.
Bon, à cause de la crise, un peu, ça a changé un peu ma situation. J'étais en Italie. Bon, j'ai émigré un peu en Allemagne pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et depuis, ça démarre pas. Donc, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Je voulais savoir si, bon, bien que je fasse tout mon possible pour subvenir à leurs besoins, normalement, je ne sais pas si je peux être considéré comme un père. Et...
Mais bien sûr que vous êtes un père. De toute façon, ça, il n'y a pas de doute.
Je pense que le fait de se poser la question répond à la question.
Et le fait de nous appeler, de parler en direct avec nous, bien sûr que vous êtes un papa de deux petites filles de 2 ans, non, Julien Blangras?
Oui, bien sûr, mais c'est une histoire très très touchante qu'on entend ici.
Charles, votre problème, c'est, si j'ai bien compris, c'est un problème économique. Hein. Vous ne pouvez pas rentrer au Sénégal pour pouvoir découvrir vos filles.
Oui, c'est économique parce que j'ai eu peur quand j'ai été en Italie et que ma femme était enceinte. J'avais perdu l'emploi en quelque sorte et il fallait que je fasse quelque chose parce que donc j'ai pris l'initiative comme ça, tout bêtement peut-être, de venir en Allemagne, bien que les situations sont très différentes, la langue, tout ça.
Vous communiquez avec vos filles? Est-ce que vous arrivez à les avoir au téléphone, à communiquer par Skype, sur Internet? Est-ce qu'elles connaissent votre visage?
Ouais, au début c'était parce que bon, elles peuvent pas me reconnaître, moi aussi au début si, mais de plus en plus ça donne l'impression d'être quelque chose de vraiment vague et ça, c'est insoutenable un peu, donc je préfère plus, parce que il faut d'abord se concentrer sur régler les choses qui sont
vous fait mal finalement, pour vous c'est difficile.
Oui, il y a d'autres priorités. La priorité, c'est qu'elles soient bien, ce dont elles ont besoin, parce qu'à cet âge, c'est un peu conséquent. Et puis, ouais, c'est ça.
Donc vous êtes un père à distance qui subvient aux besoins, et c'est ô combien important. Mais écoutez, on vous souhaite bon courage, Charles. Je suis sûre que vous parviendrez à voir vos filles, et puis il faudra bien leur expliquer, hein, surtout les sacrifices que vous avez faits, l'argent que vous avez envoyé, pour qu'elles puissent grandir en toute sécurité. Merci beaucoup de nous avoir appelé. On a un autre voisin qui nous appelle, qui est dans le Val-de-Loire. C'est Charel, c'est bien ça ?
Oui, Charel.
Bienvenue.
Bonjour Emmanuel. Et très content de vous entendre, vous trois et vos deux invités.
Vous avez 35 ans, c'est ça ?
Exactement, oui. 35 ans, oui.
Et une fille de 3 ans.
Exactement, Maëlle. Voilà. Donc, moi, le jour elle est venue au monde, c'était vraiment une joie. En même temps, la peur. En même temps, un rêve de se dire, ben tiens, je vais donner le prénom à une personne.
Oui.
Donc, ce qui fait à ce que je lui donne un prénom bien approprié.
Oui.
Ensuite, il faut que je fasse la fierté de ma femme, donc mon épouse, auprès de ma belle-famille.
Oui.
Et puis, je me suis dit, ben j'avais la peur. Et puis, le jour où elle est venue au monde, il était écrit, normalement, je ne devais pas assister à l'accouchement. Et bien, vous voyez, les choses comme ça, quand ça arrive, ben, on va dans le pas avec. Donc finalement, j'ai assisté à l'accouchement. J'ai vu la naissance de ma fille. J'ai vu tout ce que les femmes endurent. Tout le coup, même dans le train, quand je vois une femme qui est enceinte, aujourd'hui, je respecte. Et c'était une joie pour moi. En même temps, ça m'a ragaillardi. J'ai grandi parce qu'il n'y avait personne à côté de moi. Il n'y avait ni ma mère, ni mon père. Donc j'ai fait tout moi-même, moi et mon épouse. Du coup, j'étais content, ça m'a ragaillardi. Du coup, il y avait des choses auxquelles j'étais tout le temps stressé. Mais aujourd'hui, ça a disparu parce que ça m'a ragaillardi. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment un bonheur. Parce que quand je vois mon bout de chou, elle m'appelait papa tout le temps. Même quand j'ai pas envie qu'elle m'appelle, je dors. Mais c'est une joie pour moi. Une grande joie.
Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Charelle, là?
Oui, et puis ça fait plaisir.
Benjamin et Julien.
Ça fait plaisir d'entendre ça parce que, voilà, le fait d'être parent, sans... entraîne plein de complications, de contraintes, mais il faut le dire, c'est évidemment une grande joie. Et monsieur mentionnait le jour de l'accouchement, qui est quelque chose d'évidemment très très fort, d'hallucinant même. C'est une expérience même pour les pères qui est très très forte. Et voilà. D'ailleurs, mon livre est évidemment le journal d'un futur père, mais c'est un hommage rendu à la femme enceinte aussi.
Oui, mais c'est cette prise de conscience dont parlait l'auditeur, du moment où on est dans la salle de naissance, de travail et de l'accouchement, c'est le moment où on est, tu viens de naître père, quoi, et en même temps que l'enfant, et c'est à la fois vertigineux mais merveilleux, et ça reste sur le parcours de père cette ambivalence, enfin ce duo de merveilleux et de vertigineux, et de parfois un peu pénible d'entendre papa, papa, papa tout le temps, oui, même quand on dort, effectivement.
Surtout à 3h du matin,
c'est ça.
Quand on n'a pas dormi depuis 2 ans.
Si j'ai bien compris, c'est un peu votre cas aussi, Charelle. Hein, votre
oui,
petite fille vous appelle,
oui,
y compris
oui.
En pleine nuit, oui.
Ah oui, papa, je veux ça, papa, je veux ça. Quand je le regarde, elle ressemble à sa mère, elle ressemble à mon père, elle ressemble à tout le monde. Du coup, on se dit, mais la vie, elle est belle. C'est vrai qu'aujourd'hui, la responsabilité face que les parents... Aujourd'hui, beaucoup de jeunes évitent de se marier, c'est une question privée, mais avoir des enfants, c'est une autre dimension. Mais j'encourage, hein. C'est bien, nous on est sur Terre, c'est bien aussi de bâtir, laisser quelque chose de précieux, voilà. Comme vous, Emmanuel Bastille, le jour où je serai retraité, c'est ce que je souhaite, mais je m'en souviendrai de cette émission, 7 milliards de voisins, voilà. On avait parlé de tel terme. Ce qui nous... par exemple, je vous écoutais depuis, je me suis dit, mais il faut que je me gare, je vais participer. Mmh. C'est vraiment une émission, le thème, il va avec, tout va avec, quoi. J'ai pas de commentaires à faire.
Et vous, en tant que père, quand vous parlez de cet émerveillement et cette surprise, on sent aussi une forme de surprise, vous êtes comme pris au dépourvu par cet émerveillement, hein, finalement, Charelle.
Exactement, oui.
Et
oui.
Que disent les hommes autour de vous? Ils sont complètement d'accord ou en même temps, parfois vous vous sentez un peu... parce que c'est pas si courant que ça, que des hommes déballent ça en public.
Bah en fait, ils se disent qu'en fait, l'amour... Bah, par exemple, mon entourage me dit que Sarah, tu es courageux, tu as été courageux. Franchement, on s'y attendait pas. Écoutez, moi j'ai une devise qui dit toujours, j'aime les belles surprises. Donc voilà, j'affronte et voilà quoi, ça va avec. J'aime la belle vie. Le jour où j'ai vraiment assisté à l'accouchement, je vous assure que une femme, c'est la meilleure du monde. Hein.
Merci de nous avoir appelé, Charelle. Merci infiniment. Vous êtes dans le Val-de-Loire, en France. Julien Blangras, vous faites quand même, alors évidemment, votre livre, c'est aussi un livre de l'émerveillement, In Utero, mais vous faites quand même à un moment une... Alors, vous dites, voilà, avoir un enfant, c'est absolument sensationnel. Le seul problème, c'est qu'il est là tout le temps. Hein?
Oui, effectivement, c'est pour ça que ça change pas mal la vie. Et donc, j'essaye de développer des idées, hein, vu que la famille est en pleine mutation. Donc, je propose un modèle qui est un peu utopique, qui est le co-enfantage, c'est-à-dire avoir un seul enfant au lieu d'en faire deux. C'est la moyenne statistique en France. Et puis, trouver un couple d'amis qui a aussi un enfant et puis leur refiler votre enfant
une semaine sur deux
et vice-versa. Comme ça, pendant une semaine, on a le bonheur d'un foyer avec deux enfants. Ils peuvent jouer ensemble, c'est super. Et pendant une semaine, on est tranquille.
Sans divorcer.
Voilà, pas besoin de divorcer pour être tranquille d'une semaine sur deux. Ouais. Donc c'est un modèle utopique et un peu humoristique, évidemment. Mais voilà, ça
mais
peut marcher sur des périodes de babysitting un peu courtes.
Ouais.
Voilà, ça
le co-babysitting, Benjamin Buot, vous aussi, vous ressentez à la fois cet émerveillement et puis ce poids aussi des enfants.
Oui, je l'ai ressenti. Mais alors, la différence de Julien, c'est que mes filles maintenant ont 10 et 8 ans et que je retrouve, enfin, que nous retrouvons avec mon épouse une forme de, pas de liberté, mais enfin, si, c'est un peu de liberté quand même. On peut de nouveau décider au dernier moment d'aller faire un cinéma, d'aller au restaurant en emmenant nos filles, ce qui est plus plus compliqué quand on a un bébé ou un enfant en bas âge comme Julien. Donc
il a une phrase très juste dans son livre, je le cite de mémoire, mais avoir des enfants, c'est la fin de la spontanéité. Parce qu'évidemment, il faut s'organiser pour organiser la survie de ses enfants déjà. Et voilà, et je crois que c'est important quand on est parent de ne pas être seulement parent, mais de rester des êtres humains avec sa part de liberté.
Alors d'ailleurs, vous dites les enfants aiment beaucoup, sont très routiniers, en tout cas les petits, hein, ont besoin de repères, de routine. Mais en même temps, quand les enfants grandissent un tout petit peu, ils aiment aussi la part de surprise dans la vie, non ?
Ah oui, complètement, oui. Bah enfin, il y a les deux, effectivement. Elles aiment bien la routine. Elles adorent le fait que je puisse les emmener à l'école le matin, les récupérer à midi, etc. Cette routine du quotidien. Aiment les surprises aussi du dernier moment, mais voilà, je ne sais pas si on
Papa
les habitue bien.
Presque à temps plein pour vous, Benjamin Buau. Vous publiez Le Journal de Moi, Papa. Ouais. C'est chez Larousse. Et puis il y a le blog qui s'appelle
tildecat.com.
Ouais, où vous racontez votre quotidien de père au foyer. Merci à vous, Benjamin Buau. Julien Blangras, vous publiez In Utero aux éditions à Diable Vauvert. Merci à vous, les voisins, pour vos appels. Sans transition pour le respect de la parité, nous allons maintenant parler dans quelques instants. Et bien cette fois-ci, des galères des femmes célibataires. Et oui, ceux qui ne sont plus là au Cap-Vert. Reportage de Carole Valade, ça sera juste après Two Martins, Loire.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Ici, on dit que nous, on cherche pour l'égalité. L'égalité de la femme et l'homme. Mais moi, je vois ça souvent dans le papier. Je ne vois pas ça. Et moi, je me bats pour ça. Le Cap-Verdien, il veut que la femme soit soumise. Mais la femme Cap-Verdien, surtout de Saint-Vicente, elle est libre. Elle ne veut pas être trop soumise à l'homme. Elle se débrouille pour tout. À côté d'un homme, elle veut le respect. C'est ça qui manque. Si c'est pour venir m'embêter, donc je préfère rester seule et ne pas être embêtée.
Cette voix que l'on vient d'entendre, c'est celle de Juanita Montero. Elle habite sur l'île de San Vicente, au Cap-Vert, et comme 46% des femmes de cet archipel au large des côtes ouest africaines, eh bien Juanita élève seule ses enfants et se bat au quotidien pour son indépendance. Pourtant, le pays, le Cap-Vert, est considéré comme un modèle de développement en Afrique. Près de 90% des enfants capverdiens vont à l'école. C'est un modèle également en termes de démocratie, de parité, avec plus de 50% de femmes dans le gouvernement, mais dans les classes populaires, eh bien, ça n'est pas si simple. Violence, machisme, pour une femme seule, accéder à son indépendance financière relève du parcours du combattant. Bonjour Carole Valade.
Bonjour Emmanuel.
Vous étiez en reportage à Mindelo, sur l'île de San Vicente, à la rencontre de ces mères célibataires.
Oui, et ce sont toujours les mêmes difficultés qui y reviennent. Mari violent, patron arnaqueur, banque inflexible pour prêter de l'argent, et même pour accéder au microcrédit, il faut un garant, un homme, et donc avec tous les chantages sexuels qu'on peut imaginer. Et Juanita, par exemple, elle élève seule ses 6 enfants.
Oh, Zef, porte, oh, minha mãe. Zef, tu as porte, dis mal. Tu as porte. Tu as non, on se trouve dans un espace qui va s'appeler le bruit de la mer, puisque j'aime bien la langue française, j'ai toujours étudier la langue française, donc je vais ouvrir cet endroit avec notre ami, on va vendre des repas. Ici, on a le poisson frais, tous les jours. On fait le thon, le ketchup, qui est le plat national, c'est très bon. C'est un peu encore désordonné, parce qu'on vient juste de commencer, ça fait une semaine, on se prépare. J'ai beaucoup de raisons pour ouvrir cette place, pour moi. Moi, par exemple, j'ai été battue ici, à San Vicente. J'ai tellement souffert pour travailler, pour gagner tellement peu. Ici, à Gaudi, j'ai travaillé pour des gens Toujours on nous disait, oh, attends, on va te payer. J'ai passé 3 mois là-bas, on ne m'a pas payé. J'ai travaillé dans un endroit qu'on ne m'a même pas dit que j'étais en stage. C'est après, quand j'ai terminé un mois, je voulais recevoir mon argent. Ils ont dit que j'étais en stage. Ici, à Saint-Vicent. Et comme j'étais enceinte aussi des jumeaux, je travaillais dans un hôtel. J'étais réceptionniste. T'envoies à la maison parce que tu es enceinte, que tu as maintenant, tu as 6 mois. Tu ne peux plus, tu es à la réception. Tu es vilaine. Il m'a dit, le propriétaire, il m'a dit que j'étais trop vilaine pour rester à la réception. Question homme, question travail, j'ai passé partout, partout.
Meu nome é Nelly Helena da Cruz.
Je m'appelle Nelly Helena da Cruz, j'ai 32 ans et j'ai 3 enfants.
A minha filha mais velha, quando tinha 10 anos, ela foi violada pelo rapaz próximo da família.
Ma plus jeune fille a été violée quand elle avait 10 ans par un proche de la famille. Elle m'a été enlevée et on l'a mise dans une institution.
Para recuperar a minha filha, tinha que ter tinha que criar
À l'époque, j'avais pas de travail. Pour pouvoir récupérer ma fille, je devais avoir une vie meilleure pour être capable d'élever mes enfants.
Porque eu tenho 3 filhos, mas os pais deles não ajudam.
Les pères de mes 3 enfants ne m'aident pas du tout. J'ai dû les élever toute seule.
Quando acontece qualquer coisa com os seus filhos,
quand il arrive quelque chose aux enfants, tout le monde accuse la mère. C'est toujours, toujours la faute de la mère.
É assim, aqui em Cabo Verde você vai no tribunal, queixa do pai do seu filho, né? Eles vão ver o rendimento que tem.
Ici au Cap Vert, quand on va au tribunal pour se plaindre du père de son enfant, les juges regardent combien d'argent il gagne et souvent la décision c'est donnez-lui 2000 escudos de pension tous les mois. Mais 2000 escudos c'est rien, c'est 20 euros.
Não dá nada, você tem escola, tem vestuário.
Il faut payer l'école, les vêtements, les médicaments, tout. Autant ne rien donner.
Cette question de l'absence des hommes au Cap-Vert ou carrément même de leur démission familiale est cruciale pour comprendre la situation des femmes capverdiennes. Comment expliquer ce phénomène, Carole Valade ?
Il y a une grande liberté du corps au Cap-Vert et c'est lié à son histoire et sa culture. Le problème, c'est que la plupart du temps, les hommes n'ont pas la capacité financière d'être à la hauteur de leurs ambitions, c'est-à-dire d'assumer plusieurs enfants ou plusieurs épouses.
Il y a aussi la question de l'émigration, très importante au Cap-Vert.
Tout à fait. De tout temps, les Cap-Verdiens ont été des milliers à s'embarquer vers l'Europe ou les États-Unis et c'est pour ça que la diaspora est si importante aujourd'hui. Il y a par exemple plus de Cap-Verdiens à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Et du coup, les femmes restées au pays revendiquent leur indépendance. Et ça, c'est resté ancré dans la culture du Cap-Vert.
Alors justement, le Cap-Vert a adopté en 2013 une loi qui permet aux femmes de porter plainte plus facilement en cas de violence.
Oui, et dans ce combat, il faut souligner le rôle de la société civile, avec des organisations de femmes notamment, qui luttent chaque jour sur le terrain pour défendre leurs droits. Et ça, c'est Fatima Alves qui me l'a expliqué. Elle est directrice du centre Morabi de Mindelo, une association dont le nom signifie hospitalité en créole capverdien et qui aide les femmes en difficulté.
Aqui em Cabo Verde, a figura de chefe de família é a figura masculina. É tida como chefe um homem. Mas...
Selon notre histoire et notre tradition, ici au Cap-Vert, c'est l'homme qui est le chef de famille. Mais dans la réalité sociale qu'on connaît aujourd'hui, le foyer est géré par la femme. Elle élève seule ses enfants et devient donc, de fait, le chef de famille. C'est pourquoi nous avons créé Morabi.
Outro dia, foi apresentar estudo feito pelo Instituto Nacional de Estatísticas.
Il y a une anecdote intéressante. L'autre jour, j'ai présenté une étude faite par le Centre National de Statistiques qui montre clairement qu'en nombre d'heures, les femmes travaillent plus que les hommes. Le démographe à l'origine du document disait en plaisantant que contrairement aux idées reçues, ce sont plutôt les hommes qui sont entretenus par les femmes, si l'on prend en compte le travail non rémunéré, comme le travail domestique par exemple.
La violence basée sur le genre ainda é percebida como fenômeno social, mas por vezes desassociada da desigualdade. É uma consequência.
La violence contre les femmes est encore vue comme un phénomène dissocié de l'inégalité entre les sexes, alors que c'est une conséquence. Selon moi, c'est en se concentrant sur la réduction des inégalités qu'on en finira avec la violence.
Estamos quase a naturalizar a violência baseada no género quando
c'est toujours plus facile pour les hommes d'accéder à l'emploi, donc pour eux c'est presque normal d'être violent.
Ou déséquilibre de pouvoir.
Tant que la femme reste dans la dépendance financière, elle est vulnérable.
Et c'est donc grâce à des associations comme Morabi que des mères célibataires comme Nelly peuvent parvenir à obtenir un emploi en fait. Nelly, justement, elle a reçu une formation d'esthéticienne.
Mon rêve, c'est d'avoir un jour mon propre salon. Un institut de beauté qui sera la référence de San Vicente. Mais ce que je fais, je le fais pas pour moi. Je le fais pour mes enfants. Ma mère n'a jamais pu m'envoyer à l'école ou me payer des études. Alors je vais faire en sorte que ce soit différent pour mes enfants. Je pense que les femmes doivent s'unir parce que les hommes, eux, sont unis. Alors qu'ici, on se monte les unes contre les autres. Si on s'aidait plus entre nous, on s'en sortirait mieux.
Merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission 7 milliards de voisins. Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Et bien sûr, pour toutes vos réactions, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr et également réécouter toutes nos émissions en podcast sur rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, l'éducation peut-elle redevenir une terre de rassemblement en France? On en discutera avec l'historien Jacques Julliard et la journaliste essayiste Natacha Polony. Je vous dis à demain, les voisins, les voisines, et merci encore de votre fidélité du lundi au vendredi sur RFI.